Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes ratons laveurs, mes pains d'épices, bonne année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On commence 2024 avec une invitée iconique, cette force de la nature qu'est Marie Saint-Filtre. Comédienne, autrice, chanteuse, vous connaissez Marie par ses vidéos satiriques qui lèvent le voile sur les hypocrisies d'aujourd'hui. Il y a aussi les spectacles, Marie a encore ajouté des dates de culot à la salle Playel et au Casino de Paris. Rien ne l'arrête. J'ai rencontré Marie grâce à Louise Aubry du podcast InPower, dont vous connaissez peut-être le compte Insta My Better Self. En fait, tout commence il y a quasi un an, le 15 janvier 2023. Je suis invitée par Léa Salamé dans l'émission Quelle époque pour parler de mon spectacle et aussi de l'émission que j'avais lancée sur YouTube, l'un dans l'autre, où je regardais du porno avec des gens. Louise Aubry me découvre à la télé à cette occasion, vient voir mon spectacle et m'invite dans son podcast où elle a aussi reçu Marie Saint-Filtre. Elle nous réunit en septembre pour le défilé de sa marque Je ne sais quoi et c'est là que Marie et moi nous rencontrons. Je raconte la suite dans mon poème. Je vous gardais cet épisode au chaud car on l'a enregistré chez Marie il y a quelque temps déjà, lundi 6 novembre, juste après les vacances de la Toussaint, juste avant que Marie ne poste sa vidéo « Je suis juive arabe » sur les réseaux sociaux. J'avais pu la voir chez elle avant tout le monde. Marie était mi-stressée, mi-déterminée. Elle attendait les retours de son associé Max sur leur dernière version du montage. On parle beaucoup de Max dans l'épisode, de leur fabuleuse relation professionnelle. On parle de peur. Marie dit qu'elle a une grande part de totale inconscience et qu'elle ressent moins le danger que d'autres personnes. On revient sur les coulisses de son tournage à Dubaï, le dîner où elle prank les influenceuses, les conséquences énormes de la vidéo, on développe sur le sens de l'art. Pourquoi c'est plus fort pour nous que la politique ou la religion ? Marie se demande qui elle est. Marie Saint-Filtre, est-ce que c'est elle ou un personnage, un clown, un démon ? On vante la série Les Chroniques de Bridgerton et surtout, on rigole énormément. J'espère que vous rigolerez bien avec nous. Bonne année, bonne écoute !
Bonjour.
Ah ouais, c'est parfait.
Je t'ai écrit un petit poème, Marie.
C'est pas vrai?
Si.
Mais quand?
Cet après-midi.
Ah ouais?
Même, non, ce matin.
T'as fait des alexandrins?
C'est pas des alexandrins, c'est un poème en prose.
Ah, c'est un poème en prose?
Oui, oui. Enfin, c'est genre poème. C'est poème. Un petit mot, quoi, c'est une présentation.
Ah, j'aime.
Chère Marie, nous nous sommes rencontrées récemment lors d'un défilé pour la marque de lingerie de Louise Aubry.
Oui.
Nous étions toutes les deux allées dans son podcast In Power. Nous avons bien sympathisé ce jour-là en petite tenue et depuis nous sommes devenues copines. Tu es venue voir mon spectacle au théâtre de l'Atelier. Depuis, tu m'aides à chercher ma tenue pour mon prochain spectacle et moi j'ai revu une quantité phénoménale de tes vidéos. J'avais adoré celle à Dubaï, j'en parlais tout le temps quand elle est sortie. Quand elles sont sorties, je les montrais à tout le monde. J'étais là, mais regardez le courage de cette meuf ! Et encore, je ne t'avais pas vu parler en banlieue avec un Mac, t'incruster au défilé Chanel, te défendre de Gigi Hadid, faire des doigts au congrès de Marine Le Pen, aller dans la rue demander aux gens s'il y a un fantasme juif, imiter un saltimbanque au festival d'Avignon. Et en fait, si, j'avais vu passer, je te connaissais, mais maintenant que j'ai découvert la femme Marie, je suis encore plus impressionnée du courage pour jouer le personnage de Marie Saint-Filtre. Et je n'ai qu'une hâte, découvrir ton spectacle sur le culot. Merci Marie d'être là aujourd'hui. Te souviens-tu du tournage où tu as eu le plus peur?
J'adore cette présentation. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur mes peurs par rapport au tournage? J'ai toujours très souvent la boule au ventre. J'ai souvent très peur. Plus que peur, je suis excitée. Tu vois, j'ai une sorte de trac permanent. Et souvent, c'est quand la peur est vraiment... est avéré, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque, que j'ai un peu le moins peur. Ça va être sur des petites choses où je vais avoir peur. Par exemple, je me souviens que j'ai fait une vidéo à Cannes, pour le festival de Cannes. Et j'ai pas eu peur du tout, à aucun moment. Il y avait des stars américaines, des trucs. Mais à un moment, il y avait Édouard Baird au loin. Et je l'ai accosté. Et là, j'ai eu peur. Alors que Édouard Baird, quoi, c'était vraiment pas quelque chose de particulièrement dangereux. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui d'un coup vont prendre une importance incroyable, et je trouve ça assez intéressant sur la peur, c'est que souvent le risque réel fait bien moins peur que la petite chose qu'on va monter, qui va tout à coup prendre une place incroyable. Et moi j'ai peur souvent pour des petites choses, mais pas pour des grosses.
En fait t'as peur
la petite bête,
de te ridiculiser devant des gens que t'admires.
Je sais pas, il y a quelque chose qui tout à coup va créer chez moi de la peur. Par exemple, tu vois, je peux jouer sur scène devant 2000 personnes, bon ben ça, j'ai plus d'envie que de peur.
Ouais.
Mais s'il va falloir faire un discours pour une amie devant 10 personnes, ça peut me terroriser.
Et à Dubaï, quand t'es devant ce dîner de meufs là,
j'ai peur de pas y accéder, j'ai peur de pas arriver à le faire, j'ai pas peur de la situation.
Ouais, une fois que t'es face à elle, c'est quoi? C'est d'un coup, en fait, t'as la gouaille, tu rentres dans le jeu.
Quand je suis face à elle, j'ai peur d'être reconnue, j'ai peur qu'on se rende compte que je suis Marie Saint-Filtre et qu'en fait tout ça est un piège. Et qu'il y a bien une caméra qui les filme pendant qu'on a ce moment d'intimité entre une personne qui vient les voir pour les féliciter de choses qui ne sont pas félicitables. Et si tu veux, ce piège tendu par une personne que je suis déjà assez connue quand je les prank. Donc je me dis à ce moment-là, c'est un terrain glissant. Mais comme si j'ai une grande, grande part de totale inconscience, une fois que je suis dedans, ça peut durer des heures.
Ouais.
Elles ont fini par me reconnaître un peu tard.
Ouais, tard.
Tard. C'est plutôt quelque chose d'honorable envers elle. C'est une sympathie et c'est accepter que quelqu'un qui est fan soit là et puisse passer du temps avec elle.
Elles ont été généreuses avec toi à ce moment-là.
Elles ont été généreuses, elles ont été sympas.
Et est-ce que parfois t'as de la peine justement de te dire « Ah merde, je vais aller tourner en ridicule des gens qui m'ont offert un peu de leur temps, qui m'ont plutôt accueilli, qui ont été... »
Alors j'ai toujours quand même une sorte de calcul moral. Juste avant d'aller les voir, je sais ce que je viens chercher, donc il y a quand même du sens dans tout ça. Du sens qui fait que je peux faire un sacrifice à un moment. Lorsqu'elle m'accueille avec autant de sympathie, je repars de là en disant à Maxime, mon associé qui me filme, etc. Je lui dis « on va être sympa ».
Ok.
Parce que elles ont été sympas. Mmh. On va être sympa parce que sinon ce serait vraiment trahir quelque chose aussi.
Ouais.
Juste après ce moment de pure sympathie, elles ont révélé une face beaucoup plus fourbe de leur personne, puisque elles ont dans un calcul absolument génial qui pour moi a prouvé une très grande intelligence en termes de communication et de tactique, c'est qu'elles ont fait tout ensemble
des stories
d'une mauvaise foi absolue, disant que en réalité c'était elle qui m'avait piégée, que tout ce qu'elles avaient dit était donc un piège, enfin que c'était l'arroseur arrosé. Très compliqué de venir démentir un truc aussi, enfin c'est ce qu'il y a de génial avec le mensonge, et c'est pour ça que j'adore le métier d'avocat, enfin je trouve ça absolument génial, c'est que lorsqu'il y a mensonge total, très compliqué de le démentir. Bon, le mensonge ensuite a parlé lui-même, puisque voilà, évidemment, tout ce qu'elle disait était tellement
énorme,
dingue et outre, voilà, c'était tellement outrancier que voilà. Mais c'est vrai que sur ce moment, je me suis dit, putain, elles sont balèzes, quoi. Et à ce moment-là, pas de quartier. Pas en mode vengeance du tout, mais sans
culpabilité, quoi.
Voilà, sans culpabilité, sans les ménager.
Tac. J'avais pas mis le téléphone en mode avion alors que toi, tu l'as fait.
Non, pas du tout. J'attends parce que j'ai peur pour cette vidéo et j'attends les retours de Max qui en a rien à branler, lui.
Max, lui, les gens le reconnaissent maintenant ou pas?
Max, les gens commencent à... Les meufs, surtout.
Ah ouais, parce qu'il est mignon. Ouais.
Il a beaucoup de succès, grâce à qui encore? il a son petit fan club.
Ouais.
Et en même temps, il y a de quoi. Il est beau, il est drôle, il est à part.
Ouais.
C'est un être assez unique. Hein.
Comment vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés par une amie qui nous a présenté. Moi, je venais de commencer les vidéos.
T'étais à l'ENA en stage, c'est ça?
J'étais à Sciences Po et je préparais l'ENA.
Voilà.
Et je venais de commencer les vidéos et je galérais avec des monteurs, avec des trucs, avec des machins. Ça me prenait un temps fou et j'ai rencontré Max qui sortait d'école de Réal, si tu veux. Et ça a été l'entente absolue.
Immédiatement.
Immédiatement, et tout de suite, ça a été un projet commun. Ça n'a pas été « je fais ça pour toi ». Il a fait ça pour lui aussi. Et donc, c'est là que les choses ont pris une dimension beaucoup plus importante. C'est beau, hein, c'est beau d'être à deux sur quelque chose.
Ouais, c'est trop beau, cette amitié. Maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble à faire ces...
Ça fait 5 ans et demi, 6 ans.
Ouais, ça fait 6 ans. Ouais, c'est fou. Et parfois, on l'entend derrière, tout petit. Parfois, c'est mignon, c'est drôle. Il est là et puis même, c'est... Il t'aime, quoi.
Il y a un amour absolu.
C'est fou.
Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour entre nous. Si tu veux, c'est un être très spécial. Je suis émue quand je parle. C'est un être très spécial, excessivement vertueux et qui a beaucoup de... qui a des vertus, si tu veux, qu'il met au-dessus de tout, qui sont pour moi exceptionnelles. L'amitié. C'est un homme d'amitié. L'amitié avant le travail, alors que moi, j'avoue que le travail peut passer avant l'amitié. Pour lui, l'amitié vient avant le travail. Il a une délicatesse infinie, une loyauté, excessivement loyale, mais de façon totalement spontanée. Enfin, c'est un être, c'est un homme moral.
C'est une belle personne, quoi.
Ouais. Et ça se voit, je pense, ça se voit.
Ça se voit.
Ça se voit, sa gentillesse, ouais. On voit que c'est une personne totalement gentille.
C'est son regard, et peut-être qu'aussi, c'est ce qui fait, c'est ce qui te porte. Non, est-ce que quand tu faisais toutes ces folies, là, le définé, est-ce que tu aussi, il y a une part de le faire rigoler, lui ? Il y a un truc d'enfant à deux ?
Mais tellement, tellement, c'est mon public.
Ouais.
C'est mon public. En même temps, c'est pas toujours un bon public, parce que c'est quand même quelqu'un qui fait globalement la gueule.
C'est vrai.
Et donc j'ai un public hyper exigeant à satisfaire. Mmh.
Mais qui est là à chaque instant.
Qui est là tout le temps. C'est un truc de fou. Je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, hein, Max. Enfin, je veux dire,
j'ai envie de croire à l'histoire d'amour quand même un jour.
Ce serait la plus belle des
rom-com.
Des rom-com. Mmh. Aujourd'hui, non. Mmh. Du tout. Et puis... il y a un truc qui va au-dessus de il y a un truc qui va au-dessus du couple, au-dessus du rapport de séduction, et que je trouve absolument incroyable qu'on ait réussi à créer.
Frère sœur, quoi.
Moi même pas, parce que j'ai quand même des frères. C'est une relation qui échappe à beaucoup de personnes, c'est compliqué à expliquer.
Ouais, c'est une grande,
même
grande complicité,
parce qu'en fait on ne se l'explique jamais, nous.
Ouais.
On n'a jamais besoin de poser des mots dessus. Certaines personnes, je suis obligée de les rassurer. Ah oui, non, oui, non. Mais nous, entre nous, on ne pose pas de mots dessus. En revanche, quand on nous côtoie, je pense qu'il y a très peu de doutes sur ce qui se passe.
Ouais.
On comprend tout de suite. On comprend tout de suite, en fait, de quelle nature est notre lien. Et c'est un lien très surprenant, en effet.
Est-ce que vous avez parfois genre des désaccords dans le montage ou dans des plans ou,
Que ça.
Que ça.
Ah, c'est une...
J'allais dire dans des plans que vous voulez supprimer, mais vous en supprimez pas. Des vidéos longues, mais est-ce que
tu fais des combats.
C'est des films. Non mais attends, la vidéo sur la brûlure, j'ai adoré, mais c'est des heures et des heures. Comment vous décidez à deux?
C'est un enfer. Enfin, nous, on se dispute toute la journée.
Ouais.
Tout le temps. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'évite pas le conflit, en tout cas.
Ok.
On n'évite pas le conflit. Pour moi, il n'y a rien de plus qui compte plus que tout que son... que sa conviction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sera convaincu, je dis amen à tout. Et je suis souvent aussi très convaincue par certaines choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats. Après, on est des personnes, l'un et l'autre, très efficaces. C'est-à-dire qu'on ne va pas tourner autour du pot pendant des heures. On n'est vraiment pas là à enculer des mouches.
Vous y allez à fond,
il y a une
vous
répartissez, voilà.
Et et vous complétez, en effet, tu présentes, tu diriges, tu y vas, et lui, en effet, il chope des images, les images qu'il a chopées donc à Dubaï dans les camps pour hommes d'esclaves, de travailleurs à qui on a volé leur passeport. Ça, tu pouvais pas y aller, toi, c'est ça, c'était interdit aux femmes.
Je pouvais pas monter parce que ça aurait été trop bizarre. Déjà, le fait de rentrer dans ce camp en étant une femme, c'était un truc très spécial. J'ai attendu dans une voiture, il n'y avait absolument rien de dangereux là-dessus. Mmh. Mais les hommes ne comprenaient pas, on tournait autour de la voiture, pas en mode on va la violer, pas du tout, mais c'était spécial, quoi.
Ouais.
Il y a un moment, je me disais, alors moi j'ouvrais la fenêtre en mode tout va bien, ok, mais c'était un moment très spécial. D'ailleurs, c'est une des plus grosses violences que moi j'ai ressenties. C'était le fait que les camps soient que hommes ou que femmes.
Ouais.
Je trouve ça terrible. Je trouve que c'est une violence terrible, en fait, d'être qu'avec son genre. Je trouve ça terrible.
Ah ouais, ouais, elles sont... Franchement, c'est bouleversant.
De voir que... Ouais.
Le montage vraiment... que vous faites alterner, où vous dites, mais est-ce que vous avez le droit d'avoir une petite copine? Est-ce que vous avez le droit d'aller au cinéma? Et ensuite, t'as les images de gens qui font du bateau, qui sont là aux soirées, qui se bourrent la gueule. Enfin, c'est vraiment... Mais c'était fou, ça n'avait jamais été fait. Enfin, c'est vrai que je te reparle de cette vidéo, parce que moi, c'est vraiment comme ça... Je t'avais vu, mais c'est comme ça que je t'ai découverte. Et que vraiment, je trouve que le propos social, il est énorme. Et en plus, ça arrivait à une période où il y avait des gens qui essayaient de faire un peu du soft power, en mode « Non, mais Dubaï, c'est cool. Non, mais si, tout machin. » Et c'est de plus en plus, tu vois, avec la FIFA, le Qatar, la prochaine Coupe du Monde qui va à l'Arabie Saoudite. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même comme ça. Et toi, tu rappelles, tu montres cette vidéo de la princesse qui est enfermée, qui n'a pas le droit de quitter le pays. Et donc, franchement, j'ai l'impression que ça a quand même grave changé la donne aussi politiquement à un moment, cette vidéo, non? Ça a eu un écho de ouf.
Je m'en rends pas compte. Oui, oui, yes. C'était un moment où Dubaï était vraiment... En plus, c'était un moment où tout le monde y allait, où on n'y voyait absolument aucun mal, où c'était une sorte d'Eldorado pour tout le monde, pour les businessmen, pour les gens qui fuyaient le confinement et qui cherchaient une sorte de liberté, pour réussir, qui est vu à un moment comme une terre de liberté aussi, nouvelle. Et je les ai massacrés. Je les ai pas massacrés. Je les ai massacrés à un moment où c'était vraiment le feu, quoi.
Ah ouais, 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 total.
Mais je les ai pas massacrés pour les massacrer, je les ai massacrés parce que je me suis fait moi-même piéger. C'est ce que j'adore, en fait. Souvent, on pense que j'arrive à avoir un regard accusateur sur les choses, ou peut-être vous êtes des grosses merdes et moi je suis un génie. Pas du tout. Tout ce que je démontre, tout ce que je... tout ce sur quoi je lève le voile à un moment, c'est parce que moi-même, je me suis fait piéger par ce voile-là.
Les influenceurs, les codes promo.
Alors, les influenceurs, c'est vrai que non. J'ai pas été très télé-réalité. Parce que je pense que le risque était trop grand que je devienne vraiment la plus grosse débile mentale à regarder ça toute la journée. Donc j'avais des garde-fous qui étaient mes deux bouquins de chevet qui sont les mêmes depuis maintenant 15 ans. En fait, ce que je trouve de fou avec l'hypocrisie, en fait, qu'est-ce que c'est finalement le travail des vidéos Marie s'infiltre, même s'il y en a beaucoup moins aujourd'hui, c'est de lever le voile sur l'hypocrisie, tu vois. En fait, à chaque fois... Qu'est-ce que c'est? C'est la démonstration. Alors, je dis ça de façon très théorique et très chiante, mais on croit que c'est des trucs un peu à la con, des vidéos à la con, mais non. C'est des vidéos satiriques qui viennent, dans tous les pans de la société, prendre un même courant qui va dans un même sens. Donc, on est happé comme ça par une sorte de vérité. Une vérité qui est commune, qui est collective, qu'on va pas remettre en question parce qu'on n'est pas fous non plus, on n'est pas des complotistes, donc on va pas chercher toute la journée à remettre en cause la vérité. Et puis, dans cette vérité, y voir des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs, et les désamorcer par le rire. Parce que c'est pas un truc de condamnation. Le fait qu'on mente sur tout, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas grave. C'est... Dubaï, ce qu'il y a de grave, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce que le mensonge recouvre. Oui. Mais de mentir en soi, c'est pas si grave. C'est juste ce qu'on fait toute la journée. C'est ce qu'on se fait toute la journée.
Non, mais ce qu'il y a d'horrible, c'est quand ils se font, tu vois, cette espèce de ville dégueulasse, soi-disant verte, où tu y vas en bagnole. C'est trop énorme,
c'est
pour
exceptionnel.
Pas être...
C'est,
en fait, c'est...
Non, mais cette ville, si tu la vois, mais c'est à mourir de rire.
C'est fou, quoi.
C'est génial. Mais je trouve ça absolument incroyable. Jusqu'où tu vas? Parce qu'en plus, c'est un truc qui a coûté des millions et des milliards d'euros, genre de dollars, j'en sais. Un truc qui coûte une fortune pour masquer un truc...
Terrible.
C'est à mourir. Enfin, moi, je trouve ça dingue.
Puis les gars qui vont se faire faire les dents en France et se faire soigner par la sécu, puis qui reviennent là-bas.
Ça fait un peu plus mal.
Ça fait aussi très, très mal au cul, quoi.
Ça fait mal parce que, pour le coup, s'il me reste peu de conviction, j'ai encore une petite conviction de l'état social, tu vois. Enfin, ça m'a toujours insupporté les discours de profiteurs de tout ça, parce que pour moi, je peux pas imaginer une telle mesquinerie à venir en profiter, surtout quand t'es blindé.
C'est fou, hein. Ouais, de la fraude, quoi. C'est de la fraude.
De la fraude sur ce qu'il y a de pire, quoi. Sur un truc... Pas la sécurité sociale.
Ouais, c'est
clair. On nique ce qu'on veut. On nique les connards.
Ouais.
Aucun problème. Le capitalisme, on peut être un voleur capitaliste. Le système est mal foutu. Tu le... tu vois, tu le détournes, tu le retournes, c'est pas grave. Mais la sécurité sociale, non, quand même. Enfin, voilà.
C'est horrible, quand même.
Franchement, c'était énorme.
Ouais, Dubaï, en plus, c'était tellement une surprise. Enfin, on était tellement pas censé faire cette vidéo.
Ah ouais?
Ah non, rien n'était prévu. Rien n'était prévu.
Et vous avez pu repartir? Vous avez pas eu de soucis?
Ah non, mais si on est parti, le jour où on est arrivé à la douane française, on s'est regardé comme ça en disant bien joué, quoi.
Ah ouais. Par contre, vous pouvez pas y retourner.
Non, mais j'en rêve pas tous les soirs.
Non, c'est déjà génial que vous ayez pu faire. C'est incroyable le nombre d'images que vous. Enfin, je veux dire, c'est énorme.
Ouais, c'est dingue.
Qui vous ait même pas spoté à temps.
C'est vrai que c'est dingue.
C'est fou.
C'est vrai que c'est ouf. Non, c'est ouf.
Et donc, ouais, tu disais, ça s'est fait un peu par hasard ou...
Bah, ça s'est fait par hasard parce que vraiment, de façon très opportuniste, on était vraiment dans un état de déprime totale avec Maxime pendant le confinement. Mmh. Et on voyait tous ces connards en train de se pécho à Dubaï alors que nous, on était confinés, etc. Et j'ai dit à Max, on part à Dubaï. Mmh. Mais partir à Dubaï, ça engageait de faire quand même un truc artistique. Mmh. Donc, au début, je fais une chanson. Parce que ça faisait un mois que je m'étais lancée dans la chanson, et donc je faisais une chanson par semaine. Mmh. Et donc, je fais une chanson sur Dubaï, on va faire un clip à Dubaï. On y a laissé tout notre argent d'ailleurs. Donc on fait ce clip absolument flou qui veut rien dire, et en faisant le clip,
vous découvrez qu'il y a une situation.
On découvre qu'on est complètement à côté de la plaque. Quoi. Déjà la chanson parlait de tout ça, tu vois.
Les paradis artificiels.
Voilà, paradis artificiels.
Elle est bien.
Elle est pas mal, hein.
Ouais.
Et donc si tu veux, là on se regarde, on se dit mais on est complètement mais à la ramasse. Mmh. Et donc après on est reparti. On est rentré à Paris, on est reparti, et cette fois-ci en mode casquette, jean, un arsenal de caméras cachées, des micros dans tous les sens. On avait une valise d'agent du Mossad, quoi. C'était même aucun sens, le truc. On avait une valise de Tecos.
Et après, les représailles de cette vidéo, c'est des menaces?
C'est chaud. Il y a eu plein de trucs terribles. Moi, j'avais quand même pas mal d'appels. Sympathique.
Je ris de nervosité là. C'est horrible.
Non, mais il vaut mieux en rire qu'en pleurer.
Ouais.
J'avais quelques appels de sympathiques en arabe à base de Allahu Akbar.
Comment ils avaient eu ton numéro?
Ah, t'inquiète, hein, tout ce genre de choses, quand tu veux le trouver, ça se trouve.
Ah ouais.
Ce qui m'ennuyait beaucoup, c'est qu'on avait notre société qui était domiciliée chez mes parents, qu'ils avaient donc l'adresse de mes parents, qu'ils n'arrêtaient pas de me dire j'ai l'adresse de tes parents.
Aïe, aïe, aïe.
Mais bon.
Et eux, ils supportaient pas que t'aies insulté Dubaï? Enfin, je sais pas s'ils réfléchissent, mais...
Il y avait, je pense, à la fois... Alors, il y a eu une affaire un peu diplomatique.
Ouais, ouais.
Et une affaire un peu diplomatique.
Je m'étonne.
Où je crois qu'au ministre de la Culture dubaïote, ça n'a pas... Ça n'a pas été vu comme quelque chose de, à la fois de glorieux pour eux,
ouais.
Ni de bien pour leur image.
Tu m'étonnes.
Il y a eu une affaire un peu diplo. Ensuite, il y a eu, je pense... Alors, je pense que j'ai eu des trucs un peu variés. Je pense que j'ai eu des appels de menaces un peu. Mais qui... Est-ce qu'on sait qui c'est à chaque fois? Pas vraiment. Et je pense que j'ai eu aussi des particuliers qui avaient dû être filmés, qui n'étaient pas contents et qui envoyaient un tel. Évidemment, dans mon inconscience totale, je n'ai toujours pas supprimé ma ligne. Enfin, non, mais franchement, parfois, je me demande... Je suis un peu dingue. Et là, j'en ai encore reçu un appel il n'y a pas longtemps.
À cause de sa vidéo?
Ouais, je les reconnais. Je les reconnais. Bon, on s'en bat les couilles, voilà. Je fais tout ça pour te dire que oui.
Je crois qu'il y a un truc aussi dans tes vidéos qui revient, dans les choses que t'aimes et que tu défends, c'est la femme.
Ouais, j'adore la femme.
Et qu'en fait, ce que tu dénonces aussi là-bas, c'est tout cette espèce de réseau de prostitution. Enfin, je veux dire que c'est cette condition, quoi. Mmh. Voilà, de la femme à Dubaï et...
Alors ouais, exactement. Et aussi, ça m'a fait beaucoup évoluer sur mon rapport à la prostitution, parce que aimant beaucoup la femme... Et n'étant pas prostituée et ne sachant pas vraiment de quoi je parle non plus, parce que c'est quand même quelque chose qui m'est très éloigné. Pendant longtemps, théoriquement, je pouvais comprendre que la prostitution puisse être un pouvoir que la femme pouvait avoir.
Bah, bien sûr, ouais. Mmh.
Mais j'ai beaucoup évolué.
C'est-à-dire que t'es complètement contre maintenant.
Ouais, je suis passée par une période où j'étais totalement contre.
Ouais.
Notamment avec Dubaï et après notamment avec ce que j'ai fait sur les banlieues. Là, je suis de retour dans une grande période de confusion. Mais disons que oui, d'y être confrontée vraiment et confrontée en me faisant passer pour ce qui change aussi la donne. À la fois d'un point de vue cynique, et à la fois dans ce que ça implique de manière... Et là, si j'y vais vraiment, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Ouais, mais en fait, tout ça, c'est clair. Dans les vidéos, il n'y a pas un moment où ton regard envers ces femmes, il est accusateur, il reste tendre. Enfin, tu vois, en fait, tu dénonces juste une hypocrisie. Oui. Ouais, c'est juste, en fait, voilà, c'est
à
ça.
À Dubaï, je dénonce uniquement une hypocrisie, c'est-à-dire une sorte d'État qui se veut excessivement chaste et qui condamne pénalement la prostitution et qui, en fait... est un
immense bordel.
Un immense bordel à ciel ouvert. Enfin, le ciel. Si on arrive à voir le ciel, c'est déjà pas mal dans cette ville. Si c'est déjà un vrai ciel.
Et ce qui est bizarre, c'est quand les hommes parlent des prostituées, parce que t'as ce gars sur la plage, au départ, qui a l'air plutôt intelligent, que tu vas voir.
Ah oui, il était ambivalent, lui. Hein.
Il était ambivalent, parce qu'au départ, il est là, il critique les esclaves. Donc tu te dis, ah putain, il a une lucidité. Puis ensuite, il dit, ah ouais, il y a que des putes. Elle, c'est une pute. Et t'es en mode, ah, t'as trop dit le mot pute, en fait. Et d'un coup, il devient. En fait, il devient méprisant.
En fait, il n'était pas méprisant, il était juste cynique. Il était juste plus étonné. Moi, c'est un truc que je trouve terrible, en fait. C'est l'absence d'étonnement face aux choses. Et donc, il était juste dans son truc, quoi. Comme on... Et pour lui, c'était normal qu'il y ait une pute là, une pute là, une pute là. C'est vraiment une ville spéciale. Hein. Mais je pense qu'en réalité, si je me confrontais à beaucoup de choses comme ça à Paris, enfin dans beaucoup de trucs, si j'y vais... Bon, Dubaï est un truc très spécial parce qu'il y a vraiment ce vernis. Mais je pense que quand on y va, il y a beaucoup de choses étranges. Hein,
tu dirais ici, voit pas aussi en
partout,
France.
Partout, ouais, ouais. Un peu partout.
Ouais.
Moi, je pense que je suis très naïve. Et c'est cette naïveté, d'ailleurs, qui me permet de faire les vidéos, tu vois, parce que je découvre à chaque fois. Je suis étonnée, je suis tellement étonnée.
Et résultat, justement, vu que ça a créé un petit scandale diplomatique, est-ce que, genre, l'Élysée t'a contacté en mode meuf?
Non, c'est crevé, hein. Non, c'est des choses qui sont très... J'ai un peu travaillé dans la diplomatie à un moment. Ça se passe pas comme ça, les choses. Et c'est d'ailleurs... Ce qui est merveilleux, c'est que personne ne sait, tout le monde sait, personne ne sait. Enfin, ça peut jouer à une personne. Enfin, ça se passe pas comme ça. La relation entre les États. Ce sont des individus et des États et des individus et des États. C'est pour ça que quand je te dis on m'appelle, c'est pas le gouvernement qui m'appelle. On sait pas, personne ne sait.
Et t'as pas pris de la sécurité, par contre?
J'ai porté plainte une fois par semaine. Parce qu'à un moment, ça partait en couille. Donc j'ai porté plainte, mais à chaque fois, mais c'est tellement comique, quoi. T'arrives au commissariat. Moi, j'arrive, je suis un peu, genre, quand même, stressée.
Ouais.
Les enfants, je me tape trois appels d'à la Wakbar. C'est stressant, tu vois.
Ouais, ouais.
Et t'as une sorte de commissaire qui t'écrit le truc, le procès verbal, mais tu sais très bien que ça ira nulle part.
Ouais. T'as été déçue par la police à ce moment-là?
J'ai pas été déçue par la police, j'ai juste trouvé ça absurde et comique, parce que évidemment que c'était inefficace, qu'est-ce qu'ils allaient faire.
Et par contre, ce qui est plutôt courageux de ta part, je sais pas ce que j'ai fait de mon verre, je crois qu'il est
juste là. Porte.
C'est que tu n'as pas du tout communiqué sur les représailles. En fait, il y a eu la vidéo en soi, et tu t'es pas, entre guillemets, enfin, victimisé, tu vois. Moi, parfois, j'hésite. Tu sais, je fais des captures d'écran de certains commentaires.
C'est drôle.
Des commentaires un peu antisémites ou très sexistes ou qui elle a sucé celle-là pour dire ça ou des trucs. Ou alors, ah bah machin, Dieudonné. Ou ah ouais, ça c'est Mickaël qui a pas supporté un commentaire de ah bah bravo, ton peuple a pas retenu la leçon pour faire à nouveau un génocide ou des trucs, tu vois. Ton peuple a pas retenu la leçon. Et je me dis, ah. C'est beaucoup. Et j'aurais envie de temps en temps, juste pour qu'on me plaigne,
ah ouais,
tu vois, de les mettre en story et de dire oh regardez cette violence. Mais je le fais pas. Je l'avais fait, non, il y a longtemps, je l'avais fait parce que je sais plus, pour dire en fait, quand même, je vais juste vous donner un indice de ce que c'est que de parler de sexe sur les réseaux sociaux. Et voilà, genre j'ai mis quelques trucs où vraiment salope, sale chienne, sale, ou des on va te violer, des trucs quand même à mon tout petit niveau. Mais donc j'imagine, oh tiens, il y a eu aucun moment où tu as screené et dit jamais.
Enfin... Alors, jamais. J'ai même eu un gros procès, figure-toi. Parce que j'avais été la cible d'un média. Et pour te dire à quel point j'en ai rien à foutre, alors que c'était une immense gravité, d'un média très antisémite. J'ai oublié le nom, etc.
Ah, mais le truc d'Alain Soral, non?
Non, c'était pas Soral.
Ah ouais ?
C'était un autre truc qui faisait des articles sur moi en permanence. Mmh. Et il y avait eu un gros procès qui avait été médiatisé par d'autres personnes qui en étaient la cible. Moi, je n'avais absolument rien fait là-dessus. Ça avait été énorme. Hein. Ça avait été énorme. J'avais même été défendue. Alors là, c'est vraiment trop la classe. Mon avocat était Bernard Cazeneuve, qui s'était emparé du truc et tout. J'avais eu une sorte de plaidoirie démentielle où je regardais ça un peu en spectatrice, tu vois, alors qu'il s'agissait de moi. Et en fait, je me rends compte que c'est absolument pas honorable, ce que je vais te dire. Mais j'ai trop d'orgueil pour faire ça. J'ai trop d'orgueil pour me laisser atteindre déjà par ces remarques. J'ai trop d'orgueil pour prouver que le courage était le courage, en fait.
Mmh.
C'est ridicule. Hein. Je me positionne vraiment comme une sorte de... Bah, déjà, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que je ressens moins le danger sûrement que d'autres personnes. C'est-à-dire que même quand le danger est vraiment là...
T'as une inconscience.
Je pense qu'il y a une part d'inconscience, ouais. Je pense, hein. J'ai rarement vraiment peur. J'ai de la peine. Je peux avoir de la peine à un moment, je peux ressentir la violence, mais peur... Pas vraiment. C'est vrai, hein. Enfin, ou alors tout le temps. Mmh. Je sais pas si j'ai tout le temps peur... Ou si j'ai pas vraiment peur du coup, enfin tu vois.
C'est beau. C'est
j'ai peut-être tout le temps peur. Donc j'ai tout le temps peur. Et donc tous ces messages de haine, de trucs, de machin, non j'en fais pas une gloire. Parce que finalement, je pense que je suis vraiment au-dessus. Mais c'est horrible à dire. Mais
oui, tu peux faire partager les mots d'amour. Et ça d'ailleurs, par contre, tu les partages sur ton spectacle et tout.
Ouais, je partage beaucoup de mots d'amour. Mais j'ai aussi beaucoup évolué. Je pense que tu l'as vu, parce que je t'ai tapé quand même 150 vidéos de Marie Saint-Filtre, je te plains énormément. J'en ai jamais vu aucune. Mais oui, j'ai beaucoup, si. beaucoup évolué. On ne pourrait jamais, ouais. Je ne pourrais jamais aujourd'hui ressortir les vidéos que j'ai sorties. Pas parce que je ne les assume pas, mais parce que ma révolte est totalement ailleurs, tu vois.
Oui, oui, en fait, il y a plein de visages de toi différents à travers ces vidéos. Déjà, il y a l'humour, quand même, il y a beaucoup de blagues. Et il y a le côté intervieweuse. Enfin, je trouve qu'il y a le côté grand reporter. Tu vois, il y a ce côté où tu vas sur le terrain. Il y a ta gouaille. En fait, je pense qu'il y a aussi une grande part d'amour des gens. C'est que tu sais parler, ouais, aux gens, tu sais être avec eux. Te foutre de leur gueule quand il faut, mais en fait aussi les aimer. Évidemment, quand t'es à la manif des Le Pen et tout machin. Mais en fait, souvent, parfois, et t'as une technique qui est assez fascinante, c'est que pour faire dire des choses aux gens, tu te marres avec eux. Mais donc, il y a un moment où on se dit, mais il y a un dédoublement de personnalité, quoi. C'est-à-dire que t'es là, et t'es sur la vidéo sur le fantasme juif, on voit les gens te sortir des énormités, enfin des trucs antisémites horribles.
Excessivement dangereux.
Et t'es morte de rire.
Je suis morte de rire.
Et c'est ce qui fait que t'obtiens ces choses, c'est que je pense qu'il y a un truc. Et en même temps, ça marche. Parce que putain, nous, on les entend, ces énormités.
Mais mon état général, c'est soit être morte de rire, soit être en chiale, tu vois. Ouais. J'ai pas de. Je suis morte de rire parce que je pense que le fait d'être morte de rire est un grand sérieux, en fait.
Ouais.
C'est vraiment ce qui permet d'être sérieux. Il n'y a rien de moins sérieux que quelqu'un qui parle sérieusement de quelque chose de sérieux. Pour moi, c'est une énormité de faire ça. C'est scandaleux, même. La condamnation, c'est en ça que j'ai totalement renoncé à ma grande carrière politique. C'est que je trouve ça...
Ouais, puis si t'aurais pas pu, t'es trop... En fait, je pense que justement, c'est ce que tu dis de ta haine du mensonge. C'est qu'en fait, il y a un moment, ça aurait été trop de compromission pour toi. Ouais. Enfin, tu vois, t'as un amour de la vérité. Tu peux pas, tu supportes pas.
J'y arrive pas.
Mais oui.
Mais j'y arrive pas et j'ai essayé, hein, d'être convaincue. Là, je suis une personne qui n'est pas convaincue. J'ai ma conviction la seconde où j'ai la conviction. Le lendemain, je peux avoir une conviction totalement différente. Ma sincérité de la seconde où je l'ai dit. Et j'ai essayé d'avoir des convictions politiques, notamment. J'étais tellement convaincue à certains moments. Moi, j'écrivais des copies socialistes, mais à un niveau fou, quoi. Et puis, je me suis rendu compte que je m'illusionnais. En fait, l'accès à l'art, et je sais pas si je pense que tu as vécu ça aussi, c'est ce truc de faire face à une vérité totale, en fait, et qui n'est plus dans une fuite et une recherche d'idées qui vont nous sauver, qui vont nous rassurer. En fait, l'art m'a arrêté de me rassurer. Et c'est génial, parce qu'en même temps, j'y ai trouvé un truc génial, c'est que je me suis amusée. Mais j'ai arrêté d'essayer de me rassurer. Mmh. Et avant, je me faisais que me rassurer. Mmh. Et la politique, c'est se rassurer. Le discours politique se rassure, le discours religieux se rassure, le discours... Tout est une forme de consolation. Et en fait, je trouve que l'art n'est pas une consolation, en fait.
Et puis, c'est plus large. C'est-à-dire qu'en fait, le discours politique, il a une il y a quand même, t'invite un peu certaines, un dogmatisme, certaines Exactement. Portes, quoi. Alors qu'en fait, avec l'art, il suffit de prendre les choses à la dérision et en fait, tout est infini.
C'est totalement ça. Mais dans la réalité aussi, quoi. Tout ce qu'on vit, tous les drames, toutes les souffrances, toutes les colères, toutes les disputes, quand elles sont faites avec une dose de rire, une dose de qu'est-ce que je suis en train de vivre là, une dose de spectateur de sa propre vie, en reste tout aussi parfois tragique, etc., etc., tout aussi douloureuse, mais prennent une autre dimension de ça passe.
En fait, c'est que je pense qu'il y a un truc qui est très manichéen en politique, c'est des partis qui s'opposent, le bien contre le mal, et c'est pour être élu, toujours persuadé qu'on a une bonne parole. Alors que toi, t'es l'inverse de ça. Ton et personnage, en fait, il est hyper trouble, il se fait détester.
Exactement. Et j'ai eu des vrais virages quand j'étais à Sciences Po, et que j'étais vraiment passionnée de politique, et que j'étais totalement convaincue avec une sorte d'idéalisme fou, tu vois. J'aurais pu vraiment mener des révolutions à ce moment-là. Et j'ai eu des cours avec des profs, on était des petits groupes comme ça de 25, des profs qui étaient des politiques. Et j'ai eu deux profs que j'ai adorés à ce moment-là, dont Xavier Bertrand. Xavier Bertrand que j'ai adoré, et c'est là que j'ai commencé à comprendre, parce que je lui posais plein de questions. Et donc j'ai compris ce que c'était qu'être un député, j'ai compris ce que c'était que de faire passer une loi quand on est député, et en fait c'est faire passer une loi pour sa circonscription. Et donc à ce moment-là, le plus important c'est d'être élu. Et d'être élu, alors quand les lois sont des lois de merde, on s'en fout, tu vois. Mais quand une loi, enfin, quand tu fais passer plein de lois de merde, il y en a peut-être une où tout d'un coup tu en auras fait passer tellement de lois de merde pour continuer à être élu, qu'il y en aura peut-être une plus importante et tu auras oublié ton idée derrière parce que ta priorité, c'est quand même d'être élu. Et il le disait avec beaucoup de sincérité. Xavier, si tu nous entends, ce n'est absolument pas de trahir, parce que c'est ça le métier de politique, c'est d'être élu, et c'est ça qu'on est quand on est un représentant de la nation, parce que sinon on n'est pas représentant de la nation, donc il faut bien être élu par une circonscription, notamment quand on est engagé territorialement parlant, et ce qui est le plus important, ça reste quand même le territoire. Et donc j'ai eu un truc de... Putain, c'est con, mais c'est ça la politique, c'est avant tout d'être élue.
Ouais.
Et en fait, moi, dans l'art, je ne vais pas être élue.
Et non, au contraire, toi, t'adores déplaire.
J'adore déplaire. Et je ne veux pas chercher à plaire. Et en fait, je n'aurais jamais supporté faire quelque chose en prenant en compte le regard de l'autre, la validation, l'assentiment, pour en plus que de cela soit déterminé ma carrière. Aujourd'hui, ma carrière est déterminée parce que j'ai déplu.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est ouf quand même.
Ah ouais, des plumes. Puis même, tu t'es enlaidie. Parce qu'au final, il y a quelque chose de ton. On voit dans les vidéos au début. C'est marrant, il y a ce côté un peu Geneviève de Fontenay en fait. C'est comme si tu te déguisais en Bourges du 16e quoi. Mmh. Alors c'est juste caricature. Une Bourges du 6e.
Je suis une Bourges. Non, mais il y avait cette caricature de moi-même. D'ailleurs, on m'associe encore à une sorte de bourge.
Les gens croient que t'es catho, non?
On pense que je suis catho, ouais. On pense que j'ai été élevée dans un truc d'une famille de noblesse pas possible. Non, juste été même par le sentier. Une sorte de Marco Mouli. Non, mais il y a ce côté-là un petit peu dont j'adore jouer, parce que n'est-ce pas aussi le grand jeu du juif que de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, et le plus français des français. Enfin, tu sais, j'ai un peu l'impression d'être une sorte de... dans un livre d'Albert Cohen, quoi. Je suis malheureux.
Oui, il y a de ça.
Je suis mange-clou. Et donc, ça me fait toujours rire parce que finalement, mon personnage est quand même très près de moi. Enfin, le personnage de Marie Saint-Fil sur les vidéos, qui est parfois moi, parfois pas moi, ce truc de schizophrénie totale, ça m'arrange bien de me dire que c'est pas moi souvent. Et ça m'arrange aussi de dire que c'est moi à d'autres moments.
C'est ton petit clown.
C'est mon petit démon. Ouais.
C'est ton démon, ton clown.
Mais il n'existe plus trop en réalité aujourd'hui.
C'est vrai.
Non, j'ai beaucoup évolué là-dessus. J'ai beaucoup évolué. Aujourd'hui, mon plus gros culot, c'est d'aller me confronter à moi-même. Avant, j'allais interroger la société, leur dire « Vous êtes tous des cons, maintenant, c'est qui la plus conne, c'est moi. » Donc aujourd'hui, le vertige, il est beaucoup plus intime Et je souffre, enfin mon cri, parce qu'avant j'avais un cri qui était vraiment de dire vous êtes tous des cons, on, tout ce qu'on pense c'est con, on nous ment surtout, et on est tous des suiveurs, et je suis le premier des moutons, bon voilà. Là aujourd'hui c'est vraiment plus, c'est plus chaud quoi, c'est plus... C'est en vrai c'est assez dur ce que je vis artistiquement parlant. Parce que je me confronte depuis peu à beaucoup d'absurdités, à beaucoup de lâchetés personnelles. Et donc, c'est ça que j'essaie de travailler. Donc,
lâcheté personnelle.
Ben, de ne pas arriver à...
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
À plonger dans une intimité la plus totale pour pouvoir en parler et parler véritablement aux gens. À avoir encore une pudeur sur plein de choses. Tu te rappelles quand même que la première chose que je t'ai dite, c'est si la podcast parle de sexe,
ouais.
Je vais être mal à l'aise. Mm. Tu te rends compte que je t'ai quand même dit moi, alors qu'on pense que je vais pas être mal à l'aise sur bien des sujets, que je serais mal à l'aise sur quelque chose qui est de l'ordre du sexe, alors que voilà.
J'ai pas osé le dire justement pour pas te mettre mal à l'aise.
Oui, mais c'est vrai que rien ne me met plus mal à l'aise que quand on ne veut pas me mettre mal à l'aise.
Non, oui, si, c'est vrai, sur le terrain de la sexualité et de l'intime. Et en fait, ensuite, on a parce que tu m'as dit...
Je sais pas ce que je t'ai dit. En quoi qu'il arrive, ça devait être sûrement un masque ou une fuite ou une sorte de raison que je t'ai trouvée. Mm. Mais en tout cas, c'est sûr que de parler aujourd'hui de sexualité pour moi de façon publique et me mettrait... me fait peur. Pourquoi ? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai pas étudié le sujet ? Est-ce que je suis quand même dans un truc de contrôle ? J'en sais rien.
Moi, j'ai compris. Puis quand j'ai revu toutes tes vidéos, c'est qu'il y a quelque chose de très grandiloquent, tu vois. Et c'est pas pour rien que t'as toujours des robes immenses et des traits, des couronnes.
Je me cache beaucoup, tu crois, oui.
Bah, il y a une théâtralité inouïe. Et ceux qui connaissent les séfarades reconnaîtront la flamme tunisienne et algérienne derrière ça. Mais c'est-à-dire que c'est... Et donc, en effet, je pense que le petit, le soi, le détail, le quotidien, c'est en effet, c'est genre, c'est ton nouveau chapitre, mais c'est que le début, quoi.
Ouais, c'est ouf. Alors, avant aussi, tu vois, par exemple, je suis quand même... Mon terrain de jeu, enfin, mon média, c'est les réseaux sociaux. Et pendant très longtemps, je refusais de faire des stories. Je refusais de montrer quoi que ce soit de mon intimité. Max méprisait aussi beaucoup ça, de jouer de son intimité, de montrer des maquillés ou de montrer des choses qui nous appartenaient qu'à nous deux, qu'à notre monde à nous deux. Personne n'a jamais su quels étaient mes amoureux, on ne sait rien de ma vie. Depuis peu, je m'y mets. Et je m'y mets pas comme un truc que je condamnais beaucoup avant, qui est cette sorte de pornographie à ciel ouvert qui est Instagram. Je m'y mets aussi dans ma démarche artistique, je crois, qui est ce que j'adore en fait avec cette ère qui est tant condamnée par les très grands artistes, mais que moi j'aime beaucoup. C'est qu'en réalité, elle nous donne la possibilité... Enfin, elle nous donne la possibilité de jouer avec le réel de façon incroyable.
Mmh.
Et j'ai une grande période où j'ai énormément lu. Je lis beaucoup moins aujourd'hui, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et moi, ce qui m'a le plus passionné en littérature, c'était le réalisme et le naturalisme. Cette copie du réel, cette volonté de défier le réel, de vraiment et d'utiliser tout pour faire quoi? Pour faire comme le réel.
Mm-mm.
Pas mieux, pas moins bien, juste comme. Et je trouve ça et ça me fascinait, tu vois, un Zola, un Balzac, c'était un truc qui me fascinait. Et quand j'ouvre un Zola, j'ai une sorte de familiarité directe avec l'œuvre. J'adore. Et en fait, je trouve que finalement le siècle dans lequel on vit et donc les réseaux sociaux ont apporté un truc génial, qui est que maintenant on sait même plus qu'on essaie de copier le réel, c'est que l'œuvre rentre dans le réel. Qu'aujourd'hui, la fiction rentre dans le réel. Et Marie Saint-Fils, c'est un petit peu ça, parce que c'est ce personnage de fiction quand même, parce que c'est pas... Je n'utilise pas la même parole lorsque je te parle juste avant le podcast et qu'on s'est bien bourré la gueule. Et la façon dont je m'exprime dans les vidéos ou sur scène, etc. C'est une autre façon. Je suis un personnage et tous les êtres qui vont constituer le réel deviennent des personnages. Ils deviennent des stéréotypes et deviennent des personnages. Et ça, je trouve ça absolument génial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un film me fait beaucoup plus chier.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ?
Ouais, ouais.
Et moi, j'aimerais concevoir des œuvres dans le réel.
Mais c'est ce que tu fais, mais en fait, t'es une... On dit documentariste ou documentaliste ? Je sais, les gens qui réalisent des documentaires.
Plus longtemps que j'essaie d'être intelligente.
Non, mais c'est vrai que ton téléphone, c'est un peu une extension de toi, dans le sens où tu aimes capter le réel. Mais moi, je trouve ça beau et je pense que c'est comme ça que les gens font des grandes œuvres. Moi, en fait, j'adore les documentaires. Et pareil, j'adore le... tu vois, j'ai adoré le documentaire sur la création de l'album d'Orelsan, sur la vie d'Orelsan.
J'ai même pas pu le voir tellement je sais que je vais l'aimer, que ça va me faire du mal.
Ça va te défoncer la tête en fait, parce que tu te dis, ça va beaucoup te rappeler ta relation, je pense, entre son frère et Orelsan, entre Max et toi.
Ouais, je sais, ça va être très dur pour moi à regarder ce truc.
Mais regarde-le, parce que c'est vraiment sur comment il laisse la porte ouverte à sa créativité, à son ambition. Et j'avoue que c'est vrai que moi aussi, maintenant, c'est pour ça que j'adore le stand-up, c'est parce que c'est des gens qui parlent d'eux. En fait, quand je rentre dans un truc qui est trop fictionné, ou alors faut que ce soit genre méga, genre les chroniques de Bridgerton, genre un truc totalement féerique, tu vois.
J'adore aussi.
Tu vois, et là,
c'est Renaud à perruque, c'est quand même la chose la plus exceptionnelle que le monde ait fait exister aujourd'hui, quoi.
C'est magique.
C'est magique.
C'est du female gay, c'est hyper sexy. C'est les femmes, c'est des femmes qui désirent des hommes, qui lèchent leur cuillère.
Cette série,
incroyable.
Je crois que c'est la chose la plus prodigieuse c'est exceptionnel, Bridgerton.
Qu'est-ce que c'est bien écrit, et c'est palpitant, et c'est du suspense,
non,
si tu veux qu'il se baise.
C'est Renaud à perruque, on a juste envie de... Mais viens et pêche-moi avec ta perruque, toi qui n'as jamais existé. Et on fait comme si c'était normal.
Y a pas non eu beaucoup eu de ces farades à perruque, hein, je te signale.
Ah bah ça, je te fais pas dire. Enfin, ils mettent ça, parfois quelques moumoutes. Mais c'est calme.
Grave, t'es chez toi. Tu me dis quand t'en as marre à la fin. Y a
ah non, mais moi je kiffe trop, tu parles de moi. J'ai déjà fait une séance d'analyse ce matin avec ma nouvelle psy. Là, on continue quoi.
Ah non, j'adore. Non, j'adore, je trouve ça super. Et maintenant que j'ai vu ta filmo, il faut plus que je voie que le spectacle. Mais donc là, c'est ton deuxième spectaculo. Avant, il y a eu le show Inouï. Je te dis, je suis incollable. Je suis maniaco-obsessive, donc en fait, quand je rentre dans un truc, c'est pour ça qu'on a un invité, c'est pour ça que je vais arrêter le podcast, parce que quand un invité m'annule, ensuite, en vrai, c'est quand même des heures de travail qui s'effondrent. Alors, travail, j'adore, moi, me fasciner pour les gens, je trouve ça super.
Je vois très bien, très bien ce que tu vis. C'est l'enfer.
C'est l'enfer, c'est dur.
C'est l'enfer.
Je suis en mode, oh bah non, mec, j'ai vu ta capta.
J'en ai rien à foutre en plus de ta life.
Non, mais en plus, non, quand c'est quelqu'un dont j'en ai rien à foutre, je suis soulagée. Je suis en mode, oh bon, de toute façon, je voulais pas le recevoir. Mais quand c'est un invité qui finalement, je me dis, c'est du temps. Mais j'ai adoré. En fait, j'ai hésité. Puis je me suis dit, elle va vraiment me prendre pour une folle. J'ai hésité à t'envoyer un texto dimanche en te demandant est-ce que t'as un lien privé vers le show Inouï.
Il y a jamais eu de capta.
Mais non.
Non, mais aussi là, n'importe quoi, mais je suis une vraie amoureuse de théâtre et pour moi, la capta théâtre, c'est un truc inaudible, genre. Je déteste.
Je comprends.
Il n'y a aucune capta du show Inouï, qui était un show qui voulait rien dire. Ça voulait rien dire.
C'est-à-dire,
ça le parlait mot porte de vraiment son nom.
Le show Inouï. Le show Inouï, c'est mignon.
Show Inouï. Ça n'avait aucun sens. J'arrivais comme ça. Mon entrée, j'étais portée par 4 mecs. Par 4 mecs sur une sorte de trône comme ça. Wow. Musique incroyable.
Ouais, ton mariage, quoi.
Ah non, bien plus.
Ah ouais,
oula.
Cléopâtre.
Ah, Cléopâtre. Prince Ali. Donc, il n'y a pas de capta du show Inouï. J'adorais ce spectacle, je l'ai relu dernièrement, je me suis dit putain quelle folle et quel génie. C'était un spectacle qui n'avait aucun sens. Aucun. Tout et aucun. Très 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 autobiographique, avec une grande présence de mes parents que j'avais totalement caricaturé. Mon père était en permanence dans une cave, persuadé qu'il était poursuivi par une horde de nazis. Donc tu avais tout un sketch pendant, je sais pas, peut-être 15 minutes où j'étais dans le noir avec une lampe torche, que je reprends un peu d'ailleurs dans le spectacle, mais de façon différente aujourd'hui. Ma mère, qui était une sorte de bourge totalement nymphomane, et je racontais notamment ce désir de transgression et cette création d'un personnage qui est en fait ce que tu disais juste avant, ce personnage avec des grandes robes que j'incarne, qui est moi-même aussi, hein, parce que quand je sors dans la rue,
ta garde-robe.
Bah, tu connais ma garde-robe. J'ai besoin d'être en spectacle, j'ai besoin de mise en scène en permanence. Je m'ennuie de ma simplicité. Je m'ennuie mon visage dans la glace alors qu'il n'est pas maquillé, travaillé, coiffé comme si, etc. M'ennuie un petit peu. Alors maintenant, moins, mais avant, beaucoup. Et donc, cette incapacité à se regarder toute nue, c'était aussi le point de départ de ce personnage Marie Saint-Filtre, qui est un personnage qui se permet tout et qui est totalement outrancier dans tout, quoi. Et donc, je racontais ça dans le spectacle. Je racontais ça.
Tes parents, ils ont kiffé ou pas ?
Mon père, moyen. Mon père. C'est drôle parce que le spectacle lui était entièrement dédié. Le spectacle portait sur lui, en réalité, hein, oui. Le spectacle portait uniquement sur lui.
Sur quelqu'un qui a peur des nazis.
Sur quelqu'un qui est fasciné par... la question juive entre 1933 et 1946. Le spectacle était entièrement dédié parce que, si tu veux, je me suis réveillée à 25 ans, 26 ans, en réalisant que toutes mes convictions, tous mes rêves, toutes mes ambitions, que je pensais particulièrement sincères, investies totalement, étaient en réalité le fantasme de mon père, que j'adore, qui est un personnage plus que romanesque, qui est un être tellement contradictoire dans son intelligence, qui est... Enfin, je connais pas d'être... Et je pense que je peux être assez objective là-dessus, parce que beaucoup de gens le connaissent et pourraient dire ça. C'est un être d'une intelligence redoutable. Et en même temps... La ville dépasse toujours un peu, quoi. Et là, encore vendredi soir, soir de Shabbat, on était avec des gens, etc. Il y avait des... Tu sais, ces conversations, où tout d'un coup, les conversations se laissent aller à un peu de conneries, parce que voilà, on se laisse aller à la connerie de l'un, à la connerie de l'autre, et puis tout d'un coup, il y a plein de conneries qui sortent, conneries. Et je vais voir mon père, je dis, mais comment tu fais, toi, avec ta tête, pour supporter tout ça? Et Imri, il me dit, mais j'en ai rien à foutre. Tu vois, tout lui passe comme ça. Alors que moi, quand j'entends un truc que je trouve pas à la hauteur, etc., je vais avoir une révolte, je vais penser, je vais y aller, je vais dire, mais non, mais que, ça, c'est inadmissible. Et lui, il a cette...
Mélancolie ?
Clairvoyance sur tout et en même temps, cette passivité partout. Je sais pas pourquoi je déviais comme ça sur mon... sur un grand complexe d'Oedipe, mais... pourquoi pas, après tout. Mais ce que je disais, c'est que le spectacle était entièrement dédié, et je pense qu'en réalité, il en est très flatté. Que, évidemment, je le tourmente beaucoup, parce que je le tourmente avec tout ça, parce que c'est pas lui du tout de dire, de penser, de dire ce qu'on pense. D'être franche, d'avoir ce rapport total tout le temps à la vérité, c'est pas du tout lui. Et pour autant, je suis très fidèle à ses idées, je suis très fidèle à son intelligence, je suis très fidèle à ce qu'il pense malgré tout. Parce que je pense que ce qu'il pense, c'est pas si con que ça.
C'est indiscret de te demander, il faisait quoi comme boulot ?
Il était avocat. Et ça aussi, tu vois, ça m'a toujours troublée qu'un homme qui ait de telles convictions profondes soit avocat.
Tu l'aurais vu quoi ? Ministre ? Président.
Juge.
Il était avocat en droit pénal.
Tout ce qui passe. Non, pas de spécialité particulière. Un grand avocat, c'est vrai. Reconnu pour son souci du dossier. Mais moi, je disais, mais alors, qu'est-ce que tu penses de ton client ? Il dit la vérité, il dit pas la vérité, là. En fait, non, il s'en tape.
Bah, il est des deux côtés, mais un peu comme toi. Un peu comme toi dans tes vidéos, tu fais les deux côtés.
Ouais, il y a toujours un côté un peu par-delà le bien et le mal, mais c'est un être convaincu quand même.
Donc c'était un peu une déclaration d'amour. Ouais,
dur. Hein. Je suis jamais... De toute façon, dans mes déclarations d'amour, je suis jamais facile. Hein.
Mm.
J'y vais toujours dans la dureté.
Mm. Et eux, ils ont jamais eu peur pour toi ?
Si, ils ont peur. Ils ont peur. Mais tu vois comme quoi, ils avaient beaucoup plus peur quand j'étais une gentille fifi et qu'il fallait m'appeler 15 fois par jour pour savoir si j'étais vivante que maintenant, quand je fais des trucs vraiment chauds, quoi. Ils avaient beaucoup plus peur avant, finalement. Comme si comme s'ils cherchaient à me protéger de faux risques, quoi.
Mais t'as eu raison 100 fois de te libérer de ce que... Tu vois, ce que 15 fois par jour, je vois très bien le genre de parents étouffants et parents de copains. Ça peut être exactement le même délire. Si on les laissait, genre, ils nous nourriraient à la cuillère dans la bouche.
Mais matin. Moi, je suis nourrie à la cuillère
tous
les matins.
Je vois, vous êtes fous. Vous êtes fous, messieurs, dames.
Complètement, ouais.
Ouais.
Mais c'est vrai que... Mais est-ce qu'on en est jamais libéré? Putain, cette question, moi, qui me hante, c'est qui suis-je? Enfin, je pense comme tout le monde, hein. C'est pas une question... C'est pas moi qui ai inventé cette question, évidemment, mais qui suis-je en dehors de tout? De mon éducation, de mon prisme, de mon expérience, qui suis-je? Genre, c'est... Est-ce qu'on se libère vraiment de tout ça, quoi? Non, évidemment que non. On a beau essayer de se déconstruire dans tous les sens, plus on cherche à se déconstruire, plus on se reconstruit d'une autre façon, par d'autres choses à laquelle on se rattache en permanence, parce qu'il faut bien se rattacher à des choses. Sinon, on crève, quoi.
Moi, je pense que t'es quelqu'un qui est deux et qui est en résistance à une nature. C'est-à-dire que non seulement j'ai regardé ta filmographie, mais j'ai évidemment regardé toutes tes interviews. Donc je suis allée t'écouter chez Click, j'ai écouté chez Louise et tout, voilà. Donc je vois cette petite élève à Janson de Sailly qui a des bonnes notes, etc., qui est très travailleuse et qui d'un coup se dévergonde et va faire des doigts d'honneur au congrès de Marine Le Pen. Et en fait... Je pense que c'est juste que tu t'as cassé quelque chose qui au final te répugnait, que tu n'as jamais voulu être. En fait, tu ne voulais pas. Et résultat, tu n'es, même si tu es lettré, même si tu as des bouquins sur ta, t'es aussi, t'as défié quoi. Tu t'es sali. Et pour entrer dans la vie, il fallait passer par ça. Et tu vois, je m'identifie à ça, évidemment, parce que moi aussi, d'une certaine manière, sinon, j'aurais été cette petite élève de lettres. Peut-être que moi, j'aurais très bien pu finir à 150 kilos, prof de français en ZEP.
Non,
tu vois,
pas 150, juste 90.
Mais bon, ça va être un épisode grossophobe. Mais tu vois, il y a un truc où, en fait, et peut-être que, tu vois, je... Bah ouais, et au final, j'ai fait du stand-up, j'ai parlé de caca, j'ai parlé de couilles, j'ai parlé de chat, et parce que c'était aussi moi, ma manière à un moment de passer par la provocation, quoi.
Exactement, et c'est ce passage-là, et que j'ai beaucoup vu dans ton spectacle, parce que je t'ai déjà dit que ton spectacle m'a... Moi, quand je t'ai vu arriver sur scène, etc., j'ai vu une grâce infinie, et il y a ce côté dénigrement que je comprenais pas, parce que je voyais pas une personne qui avait à se dénigrer en face de moi. Très mal de se dénigrer, quel que soit
ouais,
le métier.
Mais ça, c'est nous, notre truc d'Ashkenaz.
Oui.
Tu vois, c'est vraiment ça, c'est notre culture new-yorkaise où c'est le oi oi oi, et d'ailleurs dont tu te fous de la gueule justement dans ta vidéo sur les Juifs, parce que tu dis alors est-ce que vous pouvez vous plaindre aujourd'hui. tu te fous, ça fait du bien, tu vois, parce qu'en fait, je veux dire, en fait, faut savoir que quand t'es juif, parfois, vite... Tu comprends les antisémites, tu vois.
Ah non, mais moi j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour les antisémites.
Ah, tellement.
Une personne qui n'est pas antisémite est pour moi très bizarre.
Ah, mais il y a tellement de juifs qui me rendent antisémite. Le nombre de fois où j'ai travaillé avec des juifs et je me suis dit, putain, si j'étais pas juive, là je serais antisémite, tu vois, 100 fois.
Mais il suffit de se regarder dans la glace pour se dire, qu'est-ce que je suis antisémite ce matin.
Moi, c'est les séfarades qui me rendent antisémite.
Les Ashkenazes, mauvaise foi.
Non, je sais, oui, je suis très mauvaise foi. Non, mais parfois, je me disais, mais si, en fait, si je mettais aussi moi un micro sous mon père, bah, t'imagines, les gens seraient en mode ah, bah, donc tout ce qu'on disait sur les juifs, c'était vrai. Tu vois, je veux dire, quand mon père, tu vois, ce truc, ce rapport à l'argent, ce rapport au fait de dire combien ça t'a rapporté, combien t'as gagné, c'était complet. Moi, je me souviens, tu vois, ce truc de quand je jouais à la petite loge, ah bon, c'était. Ensuite, quand t'es complet, il y avait combien dans la salle, et puis ensuite, quand ça a été complet, mais c'était que des payants ou il y avait des détaxes. Tu vois, mais. Tu vois, il voulait... En fait, ce que mon père aimerait, c'est des chiffres. Tu vois, il aime les chiffres. Il aime les chiffres. Tu vois, ensuite, quand il a plu, quand je lui ai dit c'était complet, qu'il n'y avait plus d'invités, il a voulu regarder les chiffres des vidéos, les chiffres du podcast.
Okay, il aime les chiffres, mais qui est ruiné aujourd'hui?
Ah, c'est lui. Il n'a plus d'argent, plus rien. Mais c'est un drame. Oui, c'est un drame. Et c'est pour ça que justement, non, je pense qu'il faut quand même toujours expliquer aux antisémites que ce serait trop facile, tu vois. Non, c'est plus compliqué
non,
que ça.
Non, c'est pas que c'est trop facile, c'est que c'est totalement...
faux. C'est... Bah, faux et
non,
vrai.
Non, je dirais pas ça. C'est que je comprends évidemment tous les clichés antisémites.
Oui, oui, bien sûr.
Le cliché antisémite est légèrement caricatural. Mais... pas tant que ça. Pas tant que ça. En revanche... la haine de ça, c'est catastrophique. Ouais. Le problème du racisme, c'est pas le cliché qui est derrière. Tous les clichés sont à peu près vrais. Et c'est génial, et c'est marrant, et c'est drôle.
Oui.
C'est drôle qu'un tel ait cet accent, c'est drôle qu'on dise que les Belges soient comme ci. C'est drôle parce qu'il y a une part de vérité, sinon ce serait pas drôle.
Non.
En revanche, retourner en haine, faut vraiment être un trou du cul de raciste.
Non, parce que les clichés sur les Juifs sont flatteurs. Le problème des clichés racistes sur les Noirs et les Arabes, c'est que non seulement ils sont faux, mais en plus ils sont humiliants. Tu vois, tu te souviens quand il y a ce truc de, des arabes voleurs, etc., voleurs de
vélo. Parce que le juif, il n'est pas voleur. Il est flatté. Mais le juif, quand il est voleur, il est flatté tout d'un coup.
Non, parce qu'on le voit s'enrichir.
Ah oui, c'est vrai.
Tu vois, c'est un cliché raciste qui est comme il y a le fantasme et la jalousie. Moi, parfois, je lis des trucs et j'ai envie de répondre merci à mes commentaires antisémites. Tel qu'on la voit aller comme ça avec ses connexions, elle ira très loin. Et je suis en mode, mais merci en fait, monsieur, tu vois, de m'imaginer plus de pouvoir que je n'en ai, tu vois. C'est...
oui, parce que... ouais, mais c'est... Enfin, la question de l'antisémitisme est un racisme... tellement à la fois sans visage, sans odeur, totalement, c'est une énigme totale. Enfin, c'est l'énigme de ce que de soi-même en fait. C'est cet étranger un peu spécial qui arrive à se révolter, à se soumettre en même temps, à se débrouiller, à être persécuté, à tout d'un coup à se relever, à y arriver, à travailler. Enfin, il est insupportable, mais moi je peux plus me les voir, j'en peux plus, ouais. Je ne veux plus être juive.
Je comprends. Et c'est pour ça que justement, moi j'ai beaucoup été biberonnée à ce truc new-yorkais, très Woody Allen au final, d'autodérision. Et maintenant, finalement, je me dirige vers autre chose.
Je comprends.
Tu vois, moins plaintif, moins oi-oi-oi.
C'est drôle parce que je voyais, j'ai regardé pas mal de Woody Allen là en me disant, je suis passée à côté quand même parce que je m'en souviens jamais vraiment des Woody Allen sauf Matchpoint ou des trucs comme ça. Et là, j'ai revu et je me suis dit, putain, je ne suis pas du tout sensible. Je ne suis pas du tout sensible à ça.
Bah, entre-temps, on a aussi appris qu'il avait violé sa fille, donc...
Ouais, je m'en branle, tu sais, Céline, etc. Puis ils sont horribles et méchants. Puis finalement, il y a quelque chose de... il y a un grand méchant. Non, non, je rigole.
Ouais, ça t'a pas, quand t'as découvert, tu t'es
dit... Je n'aime pas trop le dénigrement, ni de soi, ni des autres, je l'avoue. Je trouve que c'est... j'aime pas cette façon de voir les choses. J'aime pas cette façon de voir les choses, j'aime pas cette façon de rire. C'est pas ce qui m'anime le plus, quoi.
Et c'est marrant parce que c'est encore un niveau de lecture de Marie. C'est qu'à la fois, t'es quand même une grande moqueuse. Tu vois, parfois on regarde tes vidéos, je veux dire, tu vois, ouais. ils sont ridicules et on explose de rire tel que tu filmes les gens dans leur travers. Et en même temps, quand on te rencontre, t'es une vraie gentille.
Ah oui, je suis une vraie gentille. Je suis une vraie gentille. Mais parce que pour moi, le ridicule est une part de vérité et que le ridicule n'est pas grave, n'est pas méchant. C'est pas parce qu'à un moment, on a dit une connerie qu'on est bête. Moi, toute la journée, je suis ridicule, je fais des choses pas possibles. Tu peux même pas imaginer, genre. et ça ne va pas me confondre avec un état détérioré de moi-même. Ce que j'ai beaucoup de mal aussi, c'est avec l'image sérieuse qu'on puisse avoir de soi. Cet idéal qu'on peut avoir de soi-même, etc., et qui rend les gens tellement cons, et qui rend les gens tellement fashion week, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et ça, pour moi, c'est le plus grand ridicule. Pour moi, c'est un ridicule sur lequel on peut aller totalement. Ouais. C'est quand on se prend au sérieux, tu vois. Ce ridicule-là n'a aucune limite. Là-dessus, je serais intransigeante.
Je suis d'accord avec toi, et moi, le ridicule, en fait, qui me peine le plus et que je trouve le plus violent, c'est le ridicule du cinéma français. Ouais. Mais tu vois.
Raconte, je vois pas. Parce que moi, le cinéma français, j'ai quand même fait quelque chose. Hein. J'ai quand même montré mes culs.
Ah oui, ouais, c'était génial. Mais c'est vrai que t'as fait ça. Non, les Césars, en fait, je pense par exemple à des acteurs de cinéma d'auteur, d'un certain cinéma d'auteur, c'est du festival de des films, tu vois, de toute la mise, du fait que la comédie n'ait pas sa place, n'ait pas ses lettres d'or encore en France là-dedans, que les films qui fassent des entrées sont récompensés parce qu'ils font des entrées, mais tu vois l'espèce de du fait que moi je pense que résultat il y a tout un cinéma auquel j'avais pas accès avant, mais que je ferais encore moins depuis que j'ai fait des vidéos où je regarde des films porno avec des gens, tu vois. Je me suis, c'est comme si de toute façon j'ai fait en sorte que, enfin je sais pas, Blanche Gardin elle tourne dans des films, mais il y a un truc où
il y a un truc flamboyant dans le cinéma français qu'on a perdu dans ce décalage entre le sérieux et l'humour. Encore pour moi, il y a pas, ouais. Moi quand on dit que mon spectacle c'est un one man show, c'est pas un one man show, c'est pas un spectacle qui fait rire. Moi je suis pas d'accord là-dessus. Quand les gens disent je suis sortie de là j'ai trop rigolé, je me dis putain j'ai foiré mon spectacle, parce que le rire est là, évidemment, comme dans toute chose. Mais c'est pas un spectacle d'humour. C'est un spectacle où je chante, je danse, je dis des choses, je dénonce, je me dévoile à mort. Évidemment qu'on va rire. On va pas en plus aller au spectacle pour se faire chier. Genre, évidemment qu'on va rire. Mais ce truc-là, très binaire en France, mais d'ailleurs dans beaucoup de choses, hein, entre est-ce que je dois rire ou est-ce que je dois pleurer, et à ce moment-là, je pourrais pas faire les deux en même temps. Je trouve ça terrible. Et pour moi, il ne peut pas y avoir de comique sans tragique. Enfin, ça n'existe pas, c'est chiant à mourir. Aller voir un spectacle juste pour rire, c'est vraiment... je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas. Je vais voir un spectacle parce qu'il est gracieux, je vais voir un spectacle parce qu'il va me faire penser, parce que je vais ressortir de là un petit peu changé ou angoissé, ou machin. Mais d'y aller juste pour mettre... pour avoir fui totalement... la vérité, la réalité, non, j'y arrive pas.
Ouais, faut que par l'humour ça confronte. Ton spectacle, est-ce que t'es d'accord quand j'ai pas encore vu, quand les gens le décrivent comme un TEDx?
C'est un TEDx parce que c'est entièrement tourné sur le spectateur et sur sa capacité à lui-même se dépasser, etc. Mais à aucun moment, c'est une conférence. C'est tout sauf une conférence. C'est un show. Conférence, je fais avec des masterclass, mais là c'est vraiment un truc très sérieux. Non, mais mes masterclass sont un sérieux, on peut pas faire plus sérieux, quoi. Enfin, vous pensez que vous allez rire, vous allez tout faire souffrir, vous allez que chialer pendant 5h30.
Et peut-être que c'est ça en fait, que dans les shows, dans le spectacle, dans le paysage des spectacles d'humour ou de films, on revient à ce que t'aimes pas, c'est la fiction, t'as besoin de mots, de choses qui influent sur la vie directement.
Ouais, d'un choc. J'ai besoin de choc. Si j'ai pas de choc... Mais là, tu vois, j'ai encore eu un choc. Hier, j'ai eu un choc absurde. Notamment dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est très dur de sortir de cette absurdité. C'est très dur. Plus j'essaye de comprendre, plus je suis en proie à mon absurdité, à l'absurdité de tout. Je comprends rien, je comprends tout, je comprends plus rien, je comprends plus tout. Avant-hier, je me réveille, je me dis, mais je suis totalement pro-palestinienne, mais cette histoire de sionisme est une idée complètement farfelue. Le surlendemain, je me réveille en me disant, mais comment on peut penser qu'il ne peut pas y avoir d'État juif et que les juifs ne doivent pas se battre pour ça en tant qu'État. Juste après, le lendemain matin, je me dis, mais attends, mais les Juifs sont tous sauf un État. Enfin, face à ce choc absurde, j'ai du mal à imaginer des choses qui vont juste penser les plaies. J'ai besoin d'aller dans la plaie, permanence. Et pour ça, j'ai besoin de provocation, quelle qu'elle soit. Et quand j'ai pas provocation, j'ai l'impression de pas faire mon devoir. En fait, mon choc, mon vrai choc, c'est évidemment le choc de l'absurdité de l'existence, qui est théorisé totalement par Camus comme un truc de voilà, on va tous crever, et que il y a deux possibilités, le suicide ou la vie. Et l'un comme l'autre, c'est un choix, quoi. Et le suicide peut prendre plein de formes différentes. Pour moi, le suicide peut prendre diverses formes. Et aujourd'hui, il y a une grande tendance suicidaire en moi et dans ce que je vois de ce qui se passe dans le monde, cette renonciation, cette résignation à vivre, en fait, cette paresse.
Mais cette tendance suicidaire, elle est dans toutes tes vidéos. Mon Dieu, elle va se faire tuer, cette fille.
Ouais, il y a un truc un peu...
Un truc totalement suicidaire.
Ah non, mais moi, je t'explique. L'échafaud, c'est un fantasme. La guillotine, vive la République, dire juste avant, je peux très bien y aller, hein. il y a un truc de allons-y. Bon, et en même temps, l'attachement à la vie, c'est-à-dire que...
Oui, la joie, la fête, mais plus que ça, la musique.
Que vraiment, moi, si on me donne l'immortalité, je prends l'immortalité tout de suite. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux revivre 100 fois la même vie, de ma naissance à aujourd'hui, avec les mêmes souffrances, les mêmes trucs, ça ira très très bien. Je serai très heureuse de revivre tout ça. Je ne veux pas mourir. Mmh. En même temps, mourir, ouais, ça peut être extrêmement courageux.
Bah ouais, et tu t'es fait casser la gueule d'ailleurs.
On s'est fait casser la gueule.
Avec Maxime.
Avec Maxime, bien
cassé. Par des fachos. Ouais.
Mais ça, on n'en a pas parlé non plus.
Non, on n'en a pas parlé. Enfin, on en a parlé nous, entre nous, mais on n'a pas parlé dans le podcast. C'était, c'était pour la vidéo sur Marine Le Pen.
Non, pour le mariage. Là, je me suis bien, bien fait bousculer. Ouais. Là, j'ai pris quelques gifles perdues, je dirais. Non, mais rien à voir avec le passage à tabac dont on a été l'objet par les anti-vax.
Ah ouais?
Ouais, c'est con. En plus, moi, j'étais plutôt anti-vax à ce moment-là.
Non, t'es ouf.
Non, mais j'allais pas me faire des vaccins comme ça, quand même. Me saouler un peu. Et donc, les anti-vax, ils nous ont éclaté la gueule, en fait.
Putain. Et c'était où, ça?
C'était Place du Trocadéro.
Ah ouais?
Une manifestation anti-vax animé par ce bon vieux Philippot.
Ah.
Donc avec une tendance un petit peu d'extrême droite. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens aussi d'extrême droite, dont un groupe de petits tocards qui ont décidé à un moment de nous passer à tabac, étant 25 mecs sur 2 personnes, c'était une chose assez facile pour eux. Et donc là, on s'est fait démonter la gueule. Moi, avec 2 tympans percé. Putain, j'ai pas pu me laver les cheveux pendant 3 jours. Puis après, pour me laver les cheveux, je te raconte pas l'enfer.
Pour pas que ça touche l'oreille.
Parce qu'en fait, le pire du truc, c'est l'eau. Parce que l'eau l'empêche la cicatrisation du tampon. Donc une horreur, quoi. Torticolis.
Et Max par terre.
Max par terre. N'importe nawak. Le nez totalement pété. Comment on dit, traumatisme crânien.
T'as pleuré? Tu pleurais?
Non, je rigolais. Rigolais comme je pleurais. Hein.
Ouais.
J'ai eu un fou rire nerveux, horrible. Genre le démon en moi. Même là, quand je t'en parle, ça revient un peu, tu vois, ce truc de... Oh, mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, genre? Oui, mais de toute façon, je vais te dire, il y a plusieurs choses que je fais avec beaucoup de conscience. J'ai toujours su qu'on allait se faire tabasser. Je sais que ça reviendra encore. Le seul truc, c'est que j'espère qu'on... Voilà, je le sais qu'un jour, ça arrivera. Ça n'arrivera sûrement pas pour les bonnes raisons, d'ailleurs. Parce que là, c'est absolument pas arrivé pour les bonnes raisons. Et ensuite, je sais aussi qu'à un moment, il y aura des trucs qui tomberont, des procès, des trucs, des machins, parce que le droit d'image, parce que machin. Évidemment. C'est des risques que je prends.
Ah, t'as un père avocat, des merdes.
Oui, bah si tu vois pas, mon père avocat, il défend les plus grands voyous du monde, c'est le plus grand, mais alors quand il s'agit de défendre sa fille, c'est « Pourquoi t'as fait ça? C'est très mal !» machin, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Donc non, c'est...
Bah, tous les parents, n'appelez pas vos enfants 15 fois par jour et ils diront pas se faire péter la gueule par des fachos. Hein.
Mais dis pas ça parce que il va me mettre trop garde du corps.
Bon, je vais passer au questionnaire de Proust. Allez, parce que Proust, ça pourrait durer des heures.
Ah ouais, de toute façon, c'est pas comme si ça faisait 3 heures qu'on parlait avant, en plus.
La qualité que tu préfères chez un homme?
Le courage.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Le courage.
Le principal trait de ton caractère?
Le courage.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
L'amour.
Ton principal défaut?
L'intransigeance.
Ton occupation préférée?
Danser.
Ton idée du bonheur?
Les fous rires et la danse.
Quel serait ton plus grand malheur?
Ne plus rien ressentir.
Où aimerais-tu vivre?
À Paris 5e.
Elle est pas mal ta rue. Hein.
Elle est belle, hein?
C'est une des plus belles rues de Paris. Hein.
C'est très beau. Bah, j'ai toujours rêvé d'habiter là, j'habite là.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
La lâcheté. Elle qui foule te fiche.
Mais les Kneidler, c'est bon.
Kneidler.
Un don, un talent que tu aimerais avoir?
La musique.
Faire d'un instrument?
Ouais. Je l'aurais jamais fait, mais j'aimerais beaucoup un violon, tu vois.
Comment aimerais-tu mourir?
Sur scène. Évidemment, non mais c'est tellement vrai. Tellement. Mais j'ai un rapport à la scène très très particulier. L'après. Si, puisqu'on devait parler de sexe. Ce sentiment que t'as après la jouissance, tu sais, d'angoisse que tu peux avoir à certains moments, d'anéantissement même.
Ouais.
Mais après la scène...
C'est 1000.
Mais c'est fois 1000. Ouais. Je sais pas quelle nature sont vos orgasmes, mais...
Ouais. Bah si, c'est ça, c'est qu'en fait, après un orgasme, tu reviens à la banalité.
Et puis t'as ce truc de partage total, et puis juste après, t'es juste face à toi-même.
Ouais.
Face à deux personnes qui vont te dire c'était cool. Qu'est-ce qui était cool? Je ne sais plus, en fait.
En fait, après un orgasme, tu te souviens que tout ça était un peu égoïste.
Ou totalement avec l'autre. Et ouais. Là, tout d'un coup, t'es complètement avec
ouais.
toi.
Ouais. Moi, j'ai l'impression que t'es avec l'autre pendant. Quand tu fais ouais. l'amour, tu fais l'amour, t'es dans ce truc d'amour, tu crois à cette espèce de grand cérémonial à deux. Puis ensuite, il y a la jouissance. Ensuite, c'est à la fois le truc prodigieux et mécanique qui fait que c'est fini. Et ensuite, c'est chacun pour soi. Enfin, quand même, un petit peu. Il y a les câlins, les bisous, mais en fait, c'est...
Fini.
Ouais.
Rideau.
Tu chopes parfois des gars du public ?
Pas du tout.
Ah, j'ai fait ça, moi.
C'est-à-dire que tu vas avoir des fans ? Ouais, tu t'es pris pour Johnny Hallyday ou quoi ?
Pas beaucoup, hein. Mais je l'ai fait avec un gars à un plateau de stand-up dans le public qui était venu me parler. Je l'ai fait avec un gars qui m'avait vu à un plateau, qui est revenu me voir à la nouvelle scène, avec qui j'avais eu une petite histoire. Ouais, voilà, je l'ai fait deux fois, quoi.
À moi, impossible.
Ouais, mais c'est dur de rencontrer des gens quand tu fais que de la scène. Clairement, les seuls gens que je voyais, c'était ceux qui étaient... Parfois, j'avais un truc où je cherchais l'homme de ma vie dans le public, quoi, vraiment, sincèrement, quoi. Je te demandais, est-ce qu'elle est là ce soir, tu sais? Puis tu devines des visages, tu vois des carrures.
Ouais, mais moi, jamais. Ah ouais. Je peux pas imaginer que ça peut être... Le rapport est trop vicié dès le début.
Genre. Ouais, bien sûr.
Tu me connais entièrement puisque tu m'as vu sur scène. Donc, tant que tu m'as pas vu sur scène, tu ne me connais pas en réalité. Tu me connais entièrement. Et en plus de ça, tu m'as admirée, tu m'as peut-être détestée, truc, etc. Et là, tout d'un coup, tu crois que je vais te dire, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis comptable. Et puis, pas du tout. Je suis anti-groupie totale.
Ouais.
Le red flag absolu, c'est la groupie.
Et est-ce que t'as des meufs
quoi qui... Quoi que, est-ce que je dis pas de la merde?
Ouais, faut pas être trop fermé non plus. Tu sais que mon mec...
Toutes les groupies, n'oubliez pas que j'existe.
Mais bien sûr, mais mon mec, au départ, il était venu me voir en spectacle. Mais après, je l'ai rencontré après.
Ouais.
Il était venu. Mais non, mais t'es groupie. Est-ce que tu pourrais devenir amie avec une, entre guillemets, groupie, avec une fan?
Fan-fan?
Ouais.
Fan-fan.
Bah, pas fan psychopathe, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Oui.
Ouais.
Oui, mais parce que je reconnais tout de suite l'autre après. Il y a ce côté un peu admiration qui est quand même déstabilisant parce qu'on n'est pas encore dans la réalité. Et après, quand on est dans la réalité, oui, bien sûr. Ça m'est arrivé. Toi, oui?
Ouais, ça m'est arrivé, bah, pas des fans, parce que
t'as moi déjà.
J'ai pas la... Quoi?
T'as moi déjà.
Bah alors tu m'as moi aussi.
Non, c'est moi... de ça dont je parlais, hein.
Ah, c'est ça. Non, mais moi j'ai besoin d'admirer. J'ai besoin d'admirer, j'ai que des amis que j'admire. J'ai beaucoup besoin d'admirer. J'ai des amis sympas aussi, qui sont pas tous des Einstein, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin qu'il y ait un truc en eux qui vont, tu vois, de pas les cerner totalement. En fait, je me rends compte que beaucoup de mes amitiés avec des femmes, c'est des femmes qui ont encore un mystère pour moi, tu vois, étonnamment. Tu vois, j'ai passé mon temps à dire dans les interviews, le mystère, c'est mal, on n'a plus envie d'être mystérieuse en tant que femme. Et en fait, au final, c'est toujours ce qui m'attire dans mes amitiés avec les femmes. Et parfois, ça m'est arrivé des auditeurs, auditrices du podcast, de les rencontrer en tournée quand j'étais allée à Barcelone, et de dîner avec eux, et de devenir pote avec eux, une meuf, éditrice et son gars, parce que j'étais venue à Barcelone avec un gars, il m'avait tège, et donc j'étais solo, et donc j'avais fait un message en mode « il y a des gens à Barcelone », et je leur avais raconté tout mon drame. C'était un super moment, il m'avait sauvé mon séjour. Non, ça c'était un truc très fort, et en vrai, souvent, je pense qu'il y a plein d'auditeurs et auditrices du podcast avec lesquels on pourrait être amis, et quand je m'adresse à eux, je m'adresse à eux comme à des amis, et parfois on s'écrit et c'est comme si un peu on se connaissait, quoi. Mais en tout cas, c'est important, un mec qui t'admire.
Primordial, je suis.
Quel est ton état d'esprit actuel? Tourmenté.
Je résiste. je résiste pour ne pas sombrer. Je pense que je passe la plus grande partie de mon temps à me battre pour être heureuse.
Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite ?
Vive la liberté, vive la France.
Merci Marie.
Merci Rosa.
Présidente Marie. Et voilà, c'était Marie s'infiltre. Cette punchlineuse de folie, quel invité, quel épisode. Marie est capable de balancer qu'elle s'est pris des menaces de mort et dans la seconde d'après d'ajouter qu'on s'en bat les couilles. Elle admet que sa carrière a été déterminée par sa faculté à oser déplaire et que son plus gros risque aujourd'hui serait de se confronter à elle-même. Je trouve ça très beau qu'elle dise que ses déclarations d'amour ne sont jamais faciles et que son plus grand malheur serait de ne rien ressentir. Elle me fascine quand elle raconte qu'elle s'est faite casser la gueule par des fâches chaud anti-vax au moment où ça l'a saoulé elle quelque part de se faire vacciner. Mais pour Marie, l'échafaud est un fantasme. Sacrée Marie qui s'est infiltrée dans ma vie. À un moment, je dis, c'est pour ça que je vais arrêter le podcast. L'invité dont je vous ai déjà parlé m'avait annulé et j'étais vénère, mais peu de temps après, j'ai pris le rythme d'un épisode une semaine sur deux et tout s'est arrangé. Maintenant, c'est parfait. Et normalement, j'ai même un peu d'avance dans mon calendrier de diffusion pour 2024. Comme ça, je vais pas trop stresser. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je laisse le prénom de mon copain. Je ne le bip plus. Il s'appelle Michael. Bientôt, je montrerai peut-être un petit bout de sa tête sur Instagram. On verra. On verra jusqu'où je jouerai ce fameux jeu du mélange entre fiction et réalité, de survérité, dont on a parlé dans l'épisode avec Marie. J'espère que vous vous êtes bien divertis à nos côtés. Plus que ça, je me demande ce que vous avez ressenti en nous écoutant. N'hésitez pas à le partager, à faire des stories, parce qu'on démarre fort le podcast, là, avec cet épisode, en 2024. Comme quoi, le temps passe, et nous, ça continue. Je vous embrasse bien fort.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.